Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Deuxième partie d'une émission qui a commencé la semaine dernière autour d'un ouvrage important et passionnant intitulé « Histoire de Toulouse et de la métropole ». Ouvrage écrit sous la direction de Jean-Marc Olivier et de Rémi Pêche et qui rassemble un grand nombre de chercheurs, d'universitaires, de spécialistes des différentes époques liées à la ville de Toulouse, à ce qui était même les débuts de la ville de Toulouse. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Jean-Marc Olivier qui va nous parler du 19e siècle et de l'aéronautique, Rémi Pêche qui parlera plutôt du 20e siècle, et Jean-Marc Payet qui est... Jean-Marie, pardon. C'est moi qui me trompe, hein, toujours. Jean-Marie Payet qui va nous parler... qui va nous parler d'une époque beaucoup plus ancienne, il s'agit de l'Antiquité, mais d'une époque qui recèle bien des mystères et qui a... que les chercheurs sont arrivés à faire parler, j'ai l'impression. Alors voilà, bonjour messieurs, merci d'être là, d'être encore là, parce que vous avez, la semaine dernière, vous étiez présents, mais vous n'avez pas pu placer un mot, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Donc, Jean-Marc Olivier, vous, c'est le 19e siècle qui vous intéresse spécialement. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette époque ?
Bonjour et merci de nous avoir réinvités en quelque sorte. Donc le 19e siècle, là il y a un renouvellement historiographique quand même sur le 19e siècle qui est en cours depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc ça tombe bien qu'on puisse publier cette nouvelle histoire
oui,
de Toulouse.
Oui, parce qu'il y en a eu d'autres, mais là il y a des ajouts, il y a des changements.
Voilà, il y a eu celle coordonnée par Michel Taillefer et aussi celle coordonnée par Philippe Wolff. Et le 19e siècle avait quand même une image un peu sombre, parce que quand on pense 19e siècle, on pense révolution industrielle, grandes usines textiles, mines de charbon, sidérurgie. Et à Toulouse, il n'y a rien de tout cela. Il y a une manufacture des tabacs, mais qui est une manufacture d'État, en quelque sorte. Et on a l'impression que donc, et ça a été utilisé comme dénomination, que Toulouse est une belle endormie, que c'est un grand village. Et quand on se plonge un peu plus dans les archives, on s'aperçoit que les choses sont sensiblement différentes, mais qu'il faut avoir une approche peut-être plus micro-historique pour aller voir réellement ce qu'il se passe à l'intérieur des maisons toulousaines. Et à Toulouse, on a déjà une expansion démographique. Sur un large 19e siècle, il y a quand même un doublement de la population où on atteint les 150 000 habitants.
Malgré les guerres napoléoniennes.
Oui, malgré les guerres. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique qui doit bien correspondre à une activité économique. C'est pas possible autrement.
Mais où se cache-t-elle ?
Alors où se cache-t-elle ? Ben, elle se cache vraiment dans les moindres recoins des maisons toulousaines, parce qu'on a ce qu'on appelle un phénomène d'industrialisation douce et de petites industries dispersées qui n'ont rien à voir avec l'artisanat. On produit en grande quantité et en divisant le travail, mais sans le faire dans des grandes usines, toutes sortes de choses à Toulouse pendant le 19e siècle. Des chemises, bien sûr, c'est une capitale de la chemiserie. Des chaussures, en particulier les fameux fafiots, les chaussures pour enfants. Mais aussi des chapeaux. Il y a la chapellerie toulousaine qui est célèbre. Alors qu'on repère aussi dans ses exportations par des sources des fois assez originales, comme la navigation accélérée sur le canal du Midi, qui est quelque chose qui a été développé dans les années 1820-1830.
Bon moyen de transport.
Oui, ça permettait de passer des écluses plus vite et d'exporter donc entre autres des chapeaux et parfois ces cargaisons tombait à l'eau, et donc aux archives du canal, on a conservé toutes les déclarations de perte de marchandises, et ça a permis de repérer ce que Toulouse exportait au loin.
Voilà. Exportait, mais dans la France, mais hors de France aussi ?
Exactement, en France, dans toute la France, mais aussi vers l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Nord. Donc on a une véritable industrie, sauf que cette industrie, elle prend la forme de petits ateliers dispersés, de travail à domicile, souvent féminin, avec des dames patronesses qui ne subissent pas le code civil napoléonien, mais qui s'émancipent de leur mari ou de leur défunt mari et de leurs parents pour développer leurs propres entreprises et qui réussissent donc à organiser le travail en divisant les différentes étapes de la fabrication d'un chapeau, par exemple. Et au 19e siècle, on ne peut pas sortir sans avoir un couvre-chef, chapeau ou casquette. Ce serait vraiment une faute de goût.
Déchoir.
Voilà, exactement. Et donc, cette industrie produit massivement, mais sans grandes usines. C'est pour ça qu'elle a un peu échappé au regard des historiens. Et Toulouse a ainsi développé une vraie richesse qui n'est pas aussi connue que celle de l'époque du pastel, mais qui est bien réelle. Et à la fin du 19e siècle, c'est sur cette richesse que s'appuie un personnage particulier qui vient des Pyrénées, lui, qui est un industriel du bois, plutôt, mais qui est venu s'installer à Toulouse parce que du bois de la simple scierie, il est passé à la fabrication des wagons et il est venu s'installer à Toulouse parce que la connexion avec le réseau ferré était meilleure. Et cet industriel, donc, c'est Pierre-Georges Latécoër. Et Pierre-Georges Latécoër change de métier pendant la Première Guerre mondiale parce que, comme tout bon centralien, il rêve de construire une grande usine idéale. Et pour cela, il lui faut une commande pendant la Première Guerre. Mais le ministre Louis Loucheur, avec qui il devient ami d'ailleurs, lui dit que les wagons sont déjà tous précommandés et que s'il veut vraiment produire et qu'on lui paye une usine, il faut qu'il fasse des avions, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Mais il sait qu'à Toulouse...
Il avait du flair.
Louis Loucheur, oui, et puis surtout Pierre-Georges Latécoër, lui, il avait surtout le goût du risque.
Il a pris
la balle au bon, oui. Parce que bon, là, c'était quand même la grande aventure. Hein. Oui. On lui a demandé de produire des avions sur plan. Attention, c'est pas lui qui a conçu l'avion. Hein. Mmh. C'est l'entreprise parisienne d'origine suédoise Samson, qui n'arrive pas à produire suffisamment d'avions. Et entre autres, un avion remarquable, le meilleur avion d'observation de la Première Guerre, qui s'appelle Samson 2A2, et qui n'existe plus qu'en un seul exemplaire reconstitué, que l'on peut voir l'envol des pionniers depuis peu de temps, qui a été reconstitué à partir de quelques pièces par l'association Les Ailes Anciennes. Donc allez à Montaudran le voir. Hein. C'est le seul endroit au monde où on peut voir un Samson 2A2, le premier avion produit à Toulouse. Et c'est sur ce site de Montaudran que Pierre-Georges Latécoër lance en 1917-1918 la production des premiers avions à Toulouse. Et donc, ce qui a permis à Pierre-Georges Latécoër de développer cette production en reproduisant les plans fournis par Samson, c'est bien sûr son génie d'ingénieur, mais c'est surtout le fait qu'à Toulouse, il a trouvé une main-d'œuvre qualifiée, y compris féminine. Parce que pour produire des avions, il faut savoir travailler le bois. Or, à Toulouse, il y a eu aussi de l'ébénisterie au 19e siècle.
Exactement.
Donc, on sait travailler le bois.
La carrosserie.
La carrosserie aussi en bois, exactement. Il faut travailler aussi la toile. Et on a des photos des fameuses entoileuses, celles qui enduisent et tendent les toiles sur les ailes. Mmh. Et oui, et c'est pendant la Première Guerre, on a surtout des ouvrières. Et là, il sait qu'il a cette possibilité d'employer les ouvrières toulousaines. Voilà, donc pour ce 19e siècle qui est revisité et qui donne une image beaucoup plus dynamique de Toulouse dans l'ouvrage.
Oui. Moi, ce qui m'a frappé en lisant ce chapitre sur le 19e siècle, c'est finalement ce dynamisme que je ne ressentais pas, malgré quand même, il y a eu des épidémies, tant et plus.
Oui,
Le choléra, entre autres,
reprises.
Oui. Ce désir de moderniser et de, d'apporter de l'hygiène également à la ville.
Les grandes percées, aussi, l'aérisme, faire circuler l'air, on est persuadé que...
Saint-Simon avait, je crois, initié un petit peu ça, il me semble, non?
Alors Saint-Simon et les Saint-Simoniens, oui, c'est plutôt là la vocation de développer l'industrie et les échanges.
Campignon, le maire nommé contre les républicains qui a envoyé aux élections des municipalités républicaines, mais l'empereur nommé un de ses affidés, et c'est Campignon qui a décidé de faire les deux grandes percées qui ont été achevées au début de la Troisième République.
Pour faire circuler l'air et lutter contre les maladies. Et puis il y a Bedouce et les fameuses Bedoucettes pour améliorer l'hygiène dans la ville.
On
a créé des égouts quand même.
Peu, alors que c'est intéressant d'aller vers l'hygiène, vers le.
Oui, la création des égouts, ça paraît. L'eau courante, l'eau courante. Moi, j'ai connu chez ma grand-mère l'eau en bas de l'avenue dans l'avenue Camille Pujol, de l'autre côté de la rue, avec la fontaine. Je dis ça parce qu'on tournait une manivelle.
Mais ça, c'est les fontaines, c'est plutôt la période d'Étienne Billière, entre les deux guerres.
Je date pas tout à fait de cette période, mais je vous assure qu'il n'y avait pas l'eau courante chez ma grand-mère et qu'il y avait une petite fontaine. Vous savez, ces petites fontaines.
C'est sur l'ancien biliaire.
Oui. Que les fontaines ont été créées, donc vous êtes arrivé après. Tout va bien.
Tout va bien.
Non, mais non, j'ai pas voulu vous rejeter dans le Moyen-Âge.
Et je n'ai pas connu Jeanne d'Arc, hélas. Voilà, oui, alors donc, oui, c'est un siècle intéressant. Je comprends que vous soyez penché là-dessus. Est-ce qu'on a découvert de nouvelles choses
sur ce siècle
par rapport à ce qui a été dit?
Alors, l'histoire politique, elle était déjà un peu connue, mais elle a été approfondie. Et la commune toulousaine, qui était des fois, élevée au rang de mythe, soit complètement oubliée, aujourd'hui bénéficie d'une approche quand même plus objective par l'impact qu'elle a eu. Mais ça, c'est Rémi Pêche qui peut en parler mieux que moi.
Oui, non, mais il ne faut pas non plus un épisode qui a duré 3 jours. On ne va pas prendre 3 heures pour en parler. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça, je crois que c'est un peu le lancement de la gauche toulousaine qui est toujours diverse, conflictuelle, mais qui existe et qui a pu marquer des points, marquer des avancées. Puisque déjà, à Toulouse, à l'époque du Portal, on a vraiment essayé d'implanter l'école publique, obligatoire et laïque. Donc, c'est intéressant d'observer ce phénomène d'anticipation.
Mais sur le 19e siècle, il y a aussi le paysage urbain, bien sûr, qui est bouleversé par les grandes percées, par d'autres aménagements. L'une des originalités du livre, grâce entre autres à Nicolas Marquet, c'est d'offrir toute une palette de cartes qui s'inspire du système de Urban East, le site des archives municipales gratuit, sur lequel on peut aller et se promener dans le temps et dans le passé de Toulouse. Et Nicolas Marquet, qui maîtrise cette approche de l'histoire urbaine, qui est une sorte de géohistorien, on va dire, a un chapitre là-dessus où il nous montre les transformations spatiales toulousaines entre la fin du 18e et le milieu 19e. C'est très intéressant.
Alors, mais vous-même, vous n'en êtes pas resté, je pense, à la TECOR, puisque vous êtes passionné d'aéronautique.
Ah oui, bien sûr, la TECOR, c'est un début.
Oui.
Et Émile de Voitine, ensuite, se sépare de Pierre-Georges Latécoère. Pierre-Georges Latécoère, lui, se lance ensuite dans les lignes Latécoère, deviennent ensuite, qui sont revendues et qui deviennent l'aéropostale, ça c'est très connu. Et Pierre-Georges Latécoère, après avoir été un des plus grands transporteurs aériens du monde avec les lignes Latécoère, revient à l'industrie aéronautique avec des hydravions. Malheureusement, c'était pas la bonne solution,
jamais très bien marché.
Donc après, la TECOR existe toujours, mais sous la forme d'un sous-traitant aéronautique aujourd'hui. Et Émile de Voitine, lui, se lance plutôt dans des avions ultra performants, comme les avions de chasse, par exemple. Le plus connu, les avions de chasse, Le de Voitine D520, qui est le meilleur chasseur français à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, pour être produit, amène le développement du site de Saint-Martin-du-Touche. C'est comme ça que ça commence.
C'est
pour produire les deux Voitines D520 dans une entreprise nationalisée par le Front Populaire, mais toujours dirigée par Émile de Voitine. Mais jusqu'en 1945, et même jusqu'aux années 1950, Toulouse n'est pas la capitale française de l'aéronautique. C'est plutôt Paris qui reste le pôle majeur.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un renversement? La peur de la guerre ou quoi?
Alors, effectivement, on retrouve la peur d'être trop proche des frontières les plus facilement menacées. Les compétences techniques aussi qui existent. Il y a la TECOR, il y a Émile de Voitine, il y a aussi d'autres entrepreneurs toulousains comme Breguet, effectivement, qui sont à Toulouse. Et il y a un changement de dimension. Et puis, là aussi, on a la rencontre des capacités locales et de la volonté étatique de réorganiser, de rééquilibrer le territoire français. Et donc, les nouvelles nationalisations de 1945-46-47 et qui font de Toulouse la capitale de l'aéronautique. On décide que le pôle majeur aéronautique, c'est Toulouse, dans la cartographie industrielle dirigiste que l'État français envisage.
C'est amusant quand vous dites on a voulu rééquilibrer le paysage économique français, c'est vrai, mais en finale, actuellement avec cette vocation aéronautique, il y a un déséquilibre qui s'instaure. Nous sommes gâtés.
Ah oui, mais ça, c'est le succès d'Airbus. Parce que ça a quand même été un succès qui s'est esquissé tardivement. Parce que les premiers projets, si on prend l'avion Languedoc, qui commence à être produit avant la Deuxième Guerre mondiale, puis l'Armagnac, ce sont des échecs commerciaux. Et après, la Caravelle, c'est un peu mieux. On va arriver presque 300 exemplaires vendus, mais il en faut 500 pour être rentable. Donc, même si Caravelle, c'est un certain succès, et c'est l'un des tout premiers avions civils à réaction, c'est pas suffisant. Concorde, C'est quelque chose de génial magnifique, techniquement,
mais un échec commercial.
Mais un désastre commercial,
désastre,
parce que 14 Concorde vendus. Hein, 14 Concorde vendus.
La 320. C'est un désastre lié aux Américains, un peu, non?
Ça fait partie un peu des mythes, c'est un peu facile. Bon, il y a les chocs pétroliers, il y a le rôle des Américains, mais c'était peut-être pas l'avion qu'il fallait faire à ce moment-là.
Trop beau, trop cher.
Oui, élitiste, peu de passagers. Le 747 est vendu à 1500 exemplaires, le Concorde à 14. Et c'est avec Airbus, 1969-1970, la création du GIE Airbus en 70.
Et là, maintenant...
L'Airbus A300B qui, lui, s'est vendu à plus de 500 exemplaires. Donc, il passe ce fameux seuil des 500 de la rentabilité. Ça lance avec la commande, la fameuse commande américaine de la fin des années 70, ça lance Airbus. Hein. Bon, qui bénéficie aussi, bien sûr, de certains progrès techniques réalisés pour Concorde. Mais Airbus n'est pas le fils de Concorde, c'est pas si simple. Ce sont des projets contemporains. Et Airbus, d'ailleurs, est mis en service avant Concorde, hein, parce qu'il y a eu un temps très long entre le premier vol de Concorde en 69 et sa mise en service en 76. Entre-temps, l'Airbus est mis en service.
On peut s'imaginer le Concorde à une voiture de course hyper sophistiquée.
Oui, c'est une Ferrari, voilà. Oui, Airbus, c'est plutôt...
Il est retombé fatalement, oui, heureusement.
Oui, un monospace, Airbus, voilà. Mais c'est rentable. Oui. Et si on prend la famille du 320, de l'Airbus A320, là, on passe les 15 000 exemplaires vendus aujourd'hui. Ouais, donc, 14 Concorde, 15 000 Airbus vendus.
Ouais,
où est le triomphe aéronautique toulousain? Il est chez Airbus.
Bien sûr.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Est-ce que vous voyez autre chose? Enfin, il y a beaucoup d'autres choses à dire, j'imagine. Mais c'est vrai que bon, l'avenir est prometteur.
Oui. Et Toulouse, aujourd'hui, en termes de rayonnement international, on peut dire que c'est quand même la ville d'Airbus. On a une carte de visite mondiale. Parce qu'il faut reconnaître que Toulouse n'est pas forcément mondialement connue en tant que Toulouse. Mais si vous dites que c'est la ville d'Airbus...
Oui, tout de suite.
Vous avez quand même une belle carte de visite.
Oui, et du stade toulousain, mais alors là, il faut
alors,
que ce soit...
Voilà, Rémi Pêche, je savais que nous allions pouvoir parler peut-être du vin, parce que ces amphores transportaient du vin, dont nous avons parlé.
Non, mais ça, c'est Jean-Marie qui parle.
Et le stade toulousain, mais il y a bien d'autres choses, hein, évidemment.
Il y a bien d'autres choses. Alors, je pars d'où, là, de la guerre de 14?
D'où vous voulez. Je vous laisse carte blanche.
La guerre de 14 a été un traumatisme important pour la population toulousaine. 5200 morts, en gros, et je crois que Toulouse est une des rares grandes villes qui dispose de deux monuments aux morts extraordinaires. Le monument aux morts de la ville, il n'est pas celui que l'on croit, il est celui du cimetière Terre-Cavade, où sont inscrits et où sont
très émouvant.
Un grand nombre, très émouvant. Et puis, il y a le monument départemental, qui n'est pas un monument aux morts, c'est un monument aux combattants, c'est-à-dire aux morts et aux vivants. Mais il y a aussi les petits monuments de quartier, dont la plupart sont individualisés auprès des écoles. Et je crois que ça n'a pas été pour rien dans la fabrication de générations de pacifistes que ces monuments. Il y a la même heure à l'école du Nord où il faut que les élèves, pour rentrer à l'école, ils passent à travers le monument, les plaques où sont inscrites le nom des morts. Je crois que c'est un gros traumatisme. Et je peux citer le monument de Guy Emery qui vous est cher puisque votre grand-père y figure. Arrête-toi et pense au seuil de cette pierre, au deuil accumulé, aux horreurs de la guerre. Je crois que, bon, ça c'est une chose, mais d'autre part, il y a tout le développement industriel dont Jean-Marc a déjà parlé sur le plan aéronautique, mais il y a aussi le développement de la chimie avec cette formidable usine de la poudrerie qui a employé 20 000 femmes à un moment donné. Et qui a eu
à
ensuite
la poudrerie et à la manufacture des tabacs pendant la guerre.
Oui, mais la manufacture de tabac, c'est le 19e siècle. Hein. Il n'y a jamais eu plus de 1000 ou de 200 ouvriers. Tandis que la poudrerie, c'est arrivé à 20 000. Oui. Et puis, les brevets de fabrication de l'azote solide ont été cédés au traité de Versailles. Aucun industriel français ne voulant s'en charger, c'est le gouvernement qui a créé l'ONIA, l'Office national industriel de l'azote, et c'est Toulouse qui, avec d'ailleurs une certaine... On a tout, à un moment donné, focalisé sur les socialistes et Étienne Billière, mais déjà, les radicaux avaient fait gaffe et travaillé à ce que Toulouse soit... voit l'implantation de l'industrie chimique qui a succédé à l'industrie chimique pacifique.
Mais on avait eu un prix Nobel de chimie, Paul Sabatier.
Oui, c'est ça. Et dans le livre, on a un chapitre spécifique sur l'histoire de la chimie à Toulouse, donc qui est signé Michael Lopard, qui est en train de finir sa thèse sur ce sujet.
Et ça aide aussi à comprendre que Toulouse a été un foyer de résistants très important, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons une résistance tout à fait originale qui va se développer à Toulouse, qui sera, évidemment, quand les Allemands vont arriver le 11 novembre 1942, ça va être une résistance patriotique, dirigée pour la libération du pays, mais elle a commencé beaucoup plus tôt. Dès juin 40, nous avons les premiers réseaux qui sont montés avec Berthaud, hein, qui ensuite a été préfet à la libération, et nous avons surtout le geste sublime du cardinal, qui n'était pas cardinal encore, de l'archevêque, Monseigneur Saliège, qui était, au point de vue idéologique, très proche de l'idéologie de Vichy, et de la terre, et du maintien des traditions, etc.
Oui. C'est mais il a écrit une lettre.
Compte que l'extermination des Juifs se faisait, etc. Et il n'avait pas besoin de relire l'Évangile, il le savait, et il savait que c'était incompatible. Il a eu le courage, et aussi, il faut dire, la force politique, par une lettre diffusée dans chaque paroisse, imprimée, de diffuser cet esprit de résistance à un public très large, et qui a incité, comme ça a été repris à la radio de Londres et dans la presse de la France libre et de la résistance. Je pense que beaucoup de catholiques se sont engagés dans ce combat, crucial et fondamental, grâce à Saliège. Donc il faut lui tirer un coup de chapeau, appuyer, et nous l'avons fait.
D'autant que j'ai reçu ici une jeune femme universitaire de Tel Aviv qui a fait une étude de...
Des justes.
C'est une étude, hein, c'est pas un roman, hein, de tout ce qui s'est... dans chaque département en France, et elle dit que par rapport à d'autres pays autour, on parle de la Hollande, etc., il y a eu évidemment beaucoup de personnes qui ont hébergé, et de foyers religieux qui ont hébergé, caché des
absolument,
juifs.
Mais il y a eu aussi des protestants.
Alors, des protestants également,
à Toulouse,
évidemment.
Il n'y a pas un foyer protestant extrêmement développé, mais après, vous avez Montauban, vous avez le Tarn, où beaucoup de protestants sont engagés dans la résistance et ont caché des juifs, et ça, moi j'en connais personnellement, qui ont été recueillis, des enfants juifs, à Montauban, et je crois qu'on a... Il ne faut pas non plus exagérer, il y a eu aussi des collaborateurs à Toulouse. Ouais. Hein,
Et il y a aussi les travaux de Patrick Cabanel sur les protestants et les justes, qui ont donné lieu à plusieurs publications, qui analysent bien cela pour la région, et sur Saliège aussi. Cabanel,
Il y avait, mais l'engagement des catholiques, qui a été quand même très important, et je pense que des leaders économiques catholiques, comme le président de la Chambre de commerce, M. Barlang, qui est le père de Luce, notre collègue Luce, qui a participé à ce livre. Barlang, il participe de cet engagement chrétien, catholique, et je crois qu'ici, dans votre radio, on ne pouvait pas passer à côté.
Alors, on pourrait parler également des maires importants qui se sont succédés à la tête de notre municipalité.
Oui, on parle toujours des maires bâtisseurs. Et le prototype, c'est un peu Étienne Billière, parce que il a marqué, parce qu'il est arrivé dans une période où il n'y avait pas des ressources extraordinaires, mais il a réussi quand même donc à faire un urbanisme dynamique et populaire. Donc il reste comme un grand maire. Bon, ensuite, Badiou, lui, il a fallu qu'il affronte aussi des difficultés financières très importantes et des difficultés politiques aussi, parce qu'il n'a jamais eu de majorité solide. Le Parti Socialiste à la Libération était beaucoup plus faible qu'avant la guerre, et il a fallu qu'il trouve des alliances. Au départ, c'était un peu l'euphorie de la résistance, et il s'appuyait sur toutes les forces politiques de la résistance, mais ensuite, le Parti communiste est passé à l'opposition, et Badiou et Bazerk, ensuite encore plus, ont été obligés de nouer des alliances centristes, mais ne sont pas restés inactifs, puisqu'ils ont quand même doté Toulouse, enfin, de règlements d'urbanisme qui ont permis de ne pas tomber dans une démesure d'urbanisation. Je pense que Badiou a joué un rôle important dans l'assainissement, dans la voirie, etc. Et Bazerk lui-même a été également un grand maire, dans la mesure où il a lancé l'idée du Mirail, qui est une ville nouvelle, avec l'architecte Candilis, qui a été le père architectural, et où il y avait l'idée de développer un quartier absolument neuf, avec des principes de vie nouveaux, inspirés d'ailleurs de Le Corbusier à travers Candilis, et de rapprocher aussi l'habitat de l'emploi. Et ça a été un peu raté, il faut bien le dire, puisque on a créé des emplois, certes, dans l'informatique, mais les populations qui se sont fixées au Mirail n'étaient pas des populations d'informaticiens. Alors déjà, ça ouvrait un biais. Et puis le Mirail était coupé de la ville aussi.
Trop loin.
C'est sans doute ensuite Dominique Baudis qui, en réalisant le métro, a permis que le Mirail soit relié à la ville.
Hein. C'était une ville un peu, c'était un utopisme finalement qui était intéressant.
Certes, voilà, mais le concept des dalles, des cheminements, etc. Oui. Tout ça a été un peu
dévoyé
ou transformé. C'est un peu dommage, quoi. Et puis alors après, par le mécanisme des attributions d'HLM, c'est un quartier qui s'est appauvri et où on s'est vit.
Qui est composé de beaux appartements. Hein.
Le chômage, la délinquance, etc. Quoi. Ouais. On ne peut pas empêcher que Bazerk... Et Bazerk a eu aussi un autre mérite. C'est celui de constituer le premier campus universitaire de France à Rangueil, sur des superficies immenses, et avait l'idée de relier la recherche scientifique avec l'industrie. Et je crois que ça, on ne peut pas non plus le lui enlever. Et les instituts de chimie, les instituts de physique aussi, etc., ont travaillé en liaison avec l'industrie, ont été des incubateurs économiques de sociétés qui ont été semées ensuite. Et puis, évidemment, il y a eu le professeur Lagasse, le professeur Dupuis, dans le milieu médical, le professeur Lazorte, le professeur Laringue, qui vient de décéder malheureusement.
Voilà. Et c'est une ville qui continue à aller de l'avant, je suppose.
Mais bien sûr, je crois que, certes, il y a l'Airbus, mais il n'y a pas que l'Airbus. L'université est toujours féconde et vaillante et vibrante et parfois contestataire, mais ça ne fait rien. Elle est à l'avance. Et nous avons des jeunes chercheurs, nous avons un dynamisme universitaire qui est très important. Il y a des secteurs qui n'existaient pas et qui se sont développés, la numérisation, l'informatique.
L'agronomie.
Nous avons deux grandes écoles d'agronomie, une publique, une privée, mais elles travaillent ensemble. Et il faut s'en réjouir. Donc tout ça avec des spécialisations qui dépassent largement le paysage toulousain, puisque nous avons des spécialistes de l'agriculture tropicale, etc. Donc, et aussi de la viticulture, qu'il ne faut jamais oublier.
Et si on veut revenir sur les chiffres que vous avanciez en introduction la semaine dernière, sur le dynamisme démographique, qui est très très fort aujourd'hui, on le voit avec les embouteillages d'ailleurs, mais Toulouse est en train de passer trois barrières symboliques. On va passer le cap des 500 000 habitants pour la commune de Toulouse, la ville de Toulouse. On va passer le million d'habitants pour l'agglomération, c'est-à-dire le tissu urbain continu.
Oui, avec tous ces gros... ceux qui étaient des villages.
Oui, voilà. Et on va passer le cap des 1 500 000 habitants pour ce qu'on appelle désormais l'aire urbaine, qui est un nouveau concept de l'INSEE, il y a quelques années. Oui, qui correspond aux emplois. Et c'est l'aire urbaine toulousaine qui gagne chaque année 20 000 habitants, ce qui est énorme. Mmh. Ouais.
Voilà. Et puis la métropole qui
est une structure là administrative,
qui relie
avec une partie. Seulement.
Oui, parce qu'il y a le Sicoval aussi, donc oui, la métropole.
Alors, grâce à vous, voilà, on fait le point, un bilan. On se projette même dans l'avenir, mais nous allons là nous faire un grand bond en arrière.
Rétro-pédalage.
Un rétro-pédalage, voilà. En tout cas, on va voir avec Jean-Marie Payet comment est née cette ville. C'est beaucoup dire, parce que ça a été long.
C'est une très longue gestation. C'est une très longue gestation. Ce qui est frappant à Toulouse, c'est que le nom a, pour ainsi dire, existé avant le lieu, enfin, avant la localisation précise. C'est-à-dire que nous avons ce terme de Tolosa, qui nous vient du latin ou du grec, qui est passé à l'occitan...
Toulouse.
De Nougaro.
Oh, Toulouse.
Ribèche, voilà. Et qui est passé ensuite en français, en langue d'oïle, à Toulouse. Or, on sait aujourd'hui, alors ça c'est une découverte de ces 20 dernières années, notamment grâce à un collègue, Pierre Moret, on sait à coup sûr que ce nom n'est pas un nom, ce nom n'est pas un nom gaulois, on l'avait longtemps cru, c'est un nom qui nous vient d'Espagne. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, probablement quelque chose comme un trou d'eau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la graphie grecque. À Toulouse, il y a souvent eu une présence grecque, et très tôt, et importante dans l'Antiquité. Ça, c'est souvent ignoré, importante. Or, dans la graphie grecque, le nom est écrit « to » avec un omicron, « o »,« to », suivi d'un « oméga »,« tolos », ce qui explique que cette graphie grecque devait refléter la prononciation ibéro-aquitaine, ibère, « tolos », et on comprend qu'on soit passé à « Toulouse », et puis après, par attraction, Toulouse. À Toulouse. Oui, mais tout à fait. Hein. Et s'il n'y avait pas cette découverte, on ne le saurait pas. La naissance de Toulouse a été très lente à venir, puisque à quel moment le nom de Toulouse s'est imposé, probablement au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, à la fin du premier âge du fer, probablement. On sait à cette époque qu'il y a une occupation, il y avait eu une occupation préhistorique au début du 4e millénaire, mais un peu marginale, du côté de Villeneuve-Tolosane, par exemple. Bon. Mais autrement, les premières occupations apparaissent à cette époque, les Tectosages, les Gaulois Tectosages, les Volques Tectosages arrivent plus tard. Donc on a une présence, notamment dans le quartier Saint-Roch, entre Ampalo et la Garonne, en gros. Hein. On a une présence.
C'était le plus important,
important
au départ.
Important, oui. Dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, 6e, 5e siècle, et qui se poursuit jusque vers l'année 100 avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est le quartier qu'on appelle traditionnellement le quartier Saint-Roch, et où les Gaulois, les Volques Tectosages, en tout cas, s'installent vers 200. Alors pour simplifier les choses, ça va être très très simple, on va dire. Vers 200, il y a une installation de Gaulois sur deux sites principaux, celui de Saint-Roch et celui de Vieille Toulouse.
Jean-Marie Payet, je vous interromps juste un instant parce que dans votre ouvrage, vous parlez de puits. Ça veut dire que tout ce qui a été trouvé d'important se trouvait dans des puits.
Beaucoup de choses se trouvaient dans des puits. Il faut bien dire l'archéologie.
Oui, il faut creuser.
L'archéologie, il faut creuser la question.
Oui, c'est vrai.
L'archéologie trouve les morts plus que les vivants, et elle trouve le fond plus que l'altitude. Hein, ça, c'est clair.
Oui,
donc les vestiges, si vous voulez, les vestiges architecturaux de la présence gauloise, il y en a vraiment très très peu, très très peu. Et donc les choses se trouvent dans les puits. Alors pendant longtemps, mais ça c'est quelque chose qui a bien changé maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Pendant longtemps, on a cru que c'était des puits funéraires.
D'accord.
Ou des puits rituels. Non, ce sont tout banalement, alors quelquefois la découverte historique c'est une découverte d'une banalité, ce sont des puits à eau. Simplement, dans un bon nombre de ces puits, on a découvert au fond des vestiges de céramique, des vestiges de poterie ou des vestiges d'objets d'une certaine qualité qui montrent que quand on a fait le puits, ou au contraire quand on l'a abandonné, on a déposé des objets, probablement pour favoriser l'action divine qui permettait d'avoir de l'eau. Ou pour s'excuser de reboucher le puits, au moment où on le rebouchait. Parce que ces puits étaient rebouchés. Et il y en a des centaines et des centaines, à Vieille-Toulouse, à Saint-Roch, un peu moins sur le territoire de Toulouse, mais dans l'Antiquité aussi, dans la période romaine, il y a des puits partout.
Oui.
Des puits partout.
Oui, oui.
Voilà. Alors, si vous voulez, les périodes, c'est assez simple. On a au deuxième siècle avant, au deuxième premier siècle avant Jésus-Christ, on a des Gaulois qui sont à Vieille-Toulouse et à Saint-Roch. Ceux de Saint-Roch, probablement, mais c'est discuté. Si j'avais deux ou trois collègues à côté de moi, ils se disputeraient en ce moment parce que c'est très discuté. Donc c'est très bien. C'est très simple.
Oui, parce que excusez-moi, il n'y a pas d'écrit.
Il n'y a pas d'écrit, ou très peu d'écrit.
Il a parlé de Strabon.
Très peu d'écrit sur cette période. On a quand même quelques données. Je vais raconter dans un instant l'histoire de l'or de Toulouse. Là, on a un écrit, mais il a été aussi très discuté. Donc, si vous voulez, au IIe siècle avant Jésus-Christ, entre 200 et 100, vous avez deux principaux sites, Vieille-Toulouse et Saint-Roch. Probablement, la capitale était Saint-Roch, la capitale politique, mais Vieille-Toulouse était le site de Hauteur. Les deux villes se caractérisent par la présence, ça fera plaisir à mon voisin, d'amphores, vinaires, d'amphores, de vin extraordinaire. Une quantité, moi j'ai parlé plusieurs fois, j'ai donné quelques photos, il y a une photo que j'ai appelée un paysage amphorique.
Mais pourquoi ? Pourquoi ?
C'est un site commercial.
Site commercial. Les amphores à vin arrivaient d'Italie, notamment de la région de Naples, la Campanie. Elles arrivaient par la mer, elles arrivaient à Narbonne. Elles étaient déposées. Là, elles remontaient l'Aude d'abord, puis après elles étaient portées jusqu'au moment où elle retrouvait la Garonne. Et Toulouse était un lieu de transbordement, un lieu de redistribution du vin. Et les Toulousains ou leurs voisins ont visiblement consommé des quantités très très importantes.
Donc c'est une longue tradition.
Mais finalement. Oui, et d'un vin qui, bon, au deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, était un vin qui vient d'Italie du Sud. Les grands crus, le Falerne, etc., sont des crus de Campanie.
On n'avait pas de vignoble, il n'y avait pas de vignoble chez nous.
Alors il n'y avait pas de, pas de vignoble. Alors là aussi, c'est un point discuté. Mais oui, le vignoble, il s'implante dans nos régions à partir des Romains. Essentiellement à partir des Romains. Donc essentiellement à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le premier vignoble qui s'implante dans notre région, c'est le vignoble de Gaillac. On a un très beau texte d'interprétation compliquée. Avant le Profondeio, on a un texte qui nous parle de l'or de Toulouse. Ah. Que s'est-il passé avec l'or de Toulouse ?
Oui. Question.
C'est passé la chose suivante. Dans les années 106-100 avant Jésus-Christ, Rome subit une grave difficulté avec l'invasion en Gaule et en Italie du Nord des Cimbres et des Teutons. Population guerrière qui arrive, on ne sait pas trop où, mais ce sont des barbares, comme on dirait aujourd'hui. Hein, voilà, ce sont des populations qui arrivent, des guerriers, des populations conquérantes. Et les tectosages de Toulouse, et probablement ceux de Saint-Roch, ne trouvent rien de mieux que de s'allier. Non pas aux Romains à ce moment-là. Donc, ils étaient alliés avec les Romains. Il y avait une alliance, il y a un peu inégale, mais il y avait une alliance avec les Romains, qui explique l'afflux d'amphores, par exemple. Mais ils s'allient avec les Cimbres et les Teutons. Or, Marius, le général, enfin le consul romain et d'autres, finissent par liquider les Cimbres et les Teutons, par les rejeter, par les repousser. À partir de ce moment-là, disparition du site de Saint-Roch. Alors vous voyez, ça c'est le problème, disparition d'un site archéologique, abandon.
Il a fait le mauvais choix.
Oui.
Interprétation historique probable. Et à ce moment-là, les Gaulois sont installés uniquement, presque uniquement, sur le site de Vieille-Toulouse. Mais ce sont, pendant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont des Gaulois en voie de romanisation. Oui. Très nettement.
Les Gallo-Romains, voilà. On disait à une époque.
Voilà, oui, oui. Alors, deux choses à dire. Lors de l'épisode de l'or de Toulouse, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les Romains se sont emparés du territoire, et ils ont, du territoire, le quartier de Saint-Roch, et ils ont réparti le quartier entre des colons romains. Et il y avait là, comme c'était probablement la capitale politique et religieuse, il y avait là, dans des dépôts, dans les zones marécageuses, cette région est une zone assez marécageuse, il y a des dépôts d'or et d'argent, et l'histoire nous est racontée, l'or et l'argent, et les Romains s'en emparent. Les Romains s'en emparent, et la légende surajoutée disait que cet or et cet argent, les tectosages l'avaient ramené du sac qu'ils avaient fait, des ravages qu'ils avaient fait à Delphes. Alors les auteurs anciens en discutent, et il y en a un qui dit non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, il voit très bien que c'est pas possible. Et il explique que c'est de l'or et de l'argent de la région que les Gaulois offraient à leur dieu. Et le consul romain qui s'appelle Caepio, qui a pris Toulouse en quelque sorte à cette époque, est accusé d'avoir détourné l'or de Toulouse. Alors il lui arrive les pires catastrophes. Il finit par mourir, il est rejeté par l'aristocratie romaine. En fait, ce sont des combines politiques, d'exploitation politique. Mmh, mmh. Bon, c'est le Fillon de cette époque. Voilà, un petit peu, voilà.
Il n'y avait pas de tweet, mais quand même...
Enfin, il lui arrive à peu près la même chose, en bien pire, parce que sa femme et sa fille sont condamnées à la prostitution. Enfin, c'est l'horreur absolue. Mmh. Et le proverbe qui en est sorti, c'est quasiment « bien mal acquis ne profite jamais ». L'or de Toulouse, c'est ça. Et alors donc, si vous voulez, après, ce qui se passe, c'est que tout le premier siècle, à Vieille-Toulouse, c'est l'histoire d'une romanisation accélérée, d'une latinisation accélérée. La deuxième plus ancienne inscription latine de la Gaule a été trouvée à Vieille-Toulouse, près d'un sanctuaire. Et elle porte des noms de gens qui sont d'Italie, qui arrivent d'Italie du Sud notamment. Donc je soupçonne. C'était des gens qui venaient faire le commerce du vin. Mais bon, j'en sais rien.
Et Palladia Tolosa. Ah,
Palladia Tolosa, c'est plus tard.
Alors, ça veut dire que l'habitat s'est transformé. Dans quoi vivaient-ils, les tectosages, par exemple?
Ils vivaient... il faut considérer que, pendant très longtemps, y compris ensuite, donc on arrive à la fondation de la ville romaine très vite, ils vivaient dans des maisons de torchis et de bois, avec des toits de chaume. Je crois que ça, c'est pas... C'est la vision un peu caricaturale, mais ça correspond en gros à la réalité. C'était ça.
Mais
la brique arrive à Vieille-Toulouse très tôt. C'est-à-dire que le sanctuaire qui date de 47, puisque l'inscription est bien datée de 47 avant Jésus-Christ, est un sanctuaire qui est construit en brique.
D'accord.
Donc la brique romaine, la brique italienne. Aujourd'hui, ça c'est une nouvelle découverte.
On s'aperçoit que
l'italianisation, pré-romanisation, alors après, la fondation de la ville, c'est l'empereur Auguste, clairement. Ça a pris 50 ans. On peut simplifier les choses à outrance en disant 25 avant Jésus-Christ, 25 après Jésus-Christ. La décision a dû être prise vers 27, au moment où Octave devient Auguste, premier empereur. Et disons que la fin de la première grande urbanisation de Toulouse, c'est les années 25-30 après Jésus-Christ. Donc ça a pris 50 ans. Mais ce qu'on sait encore plus clairement par l'archéologie, c'est que Vieille-Toulouse est abandonnée entre 10 et le début de notre ère, et que la ville commence à être construite dans les années suivantes. Il y a eu une décision. La décision n'a pas été une décision de sanction, pas du tout. C'est une décision de promotion. Ces gens-là étaient latinisés, ils étaient romanisés. Ils n'étaient pas du tout hostiles à Toulouse. Ils avaient appuyé César dans la guerre des Gaules. C'est des collabos, on veut.
Des collabos, ça. Je l'ai mis avec un point d'interrogation.
Oui, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez,
ça a été une ville finalement très élaborée. Il y avait des égouts. Enfin, on le sait que les Romains avaient un confort incroyable.
C'est une ville à la romaine. C'est une ville à la romaine de 90 hectares, ce qui en fait une ville qui est grande. Il faut quand même tenir compte que dans ce cas-là, sur 90 hectares, pas mal de terrain devait être en friche ou en culture. Il faut imaginer des villes un peu comme les villes de ce qu'on appelait le tiers-monde il y a encore quelques années, c'est-à-dire des villes qui sont un peu dispersées avec des zones non cultivées ou des zones cultivées, voilà. Mais 90 hectares, c'est quand même assez grand.
Avec des aqueducs.
C'est la moitié de Nîmes, par exemple. Nîmes, c'est 200 hectares. La ville romaine de Nîmes est construite à la même époque.
Et qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, sous la Dorade? C'est une église que les auditeurs ici connaissent bien. Parce que apparemment, il y a plusieurs étages. En profondeur,
La Dorade, il y a vraiment du neuf, là. Il y a du neuf grâce à un savant, j'allais dire, autonome, extérieur au milieu proprement universitaire, mais qui a vraiment fait une étude extraordinaire de la période visigothique. On est au 5e siècle, cette fois. La Dorade, très vraisemblablement, il y a trois époques. Une première époque, sous la Dorade, on en a trouvé les vestiges archéologiques il y a quelques années, mais il n'y a plus rien à trouver. Tout ça a été totalement recouvert, etc. C'est fini. Un grand nymphée, un immense bassin, un très très grand bassin. Il suffit de voir où est la Dorade, à proximité de la Garonne, à deux pas du théâtre romain, qui était juste à côté, rue de Metz. On n'en voit rien, mais enfin c'est là.
C'est-à-dire au niveau de la place Esquirol, non?
Esquirol
et le pont.
La place Esquirol, c'était l'emplacement du forum romain. Mais là, donc, un très grand nymphée. Puis ensuite, il a été probablement aménagé avec des colonnades au 3e siècle de notre ère. Et puis au 5e siècle, c'est ce que pense Jean Cassaigneau, mais c'est une hypothèse, il le dit lui-même, et l'hypothèse est très séduisante, c'est la première église visigothique C'est le roi des Visigoths qui fait construire une église et qui est construite sur les fondations de ce bassin, en quelque sorte.
D'accord.
Et là,
mais il n'y avait pas de temple romain, donc.
Non.
D'accord.
Ouais. Non, probablement pas. Probablement pas l'idée, mais c'est une idée qu'on a toujours.
Oui,
les églises
oui,
sont
oui.
construites sur les temples.
Qu'il y ait un temple.
Mais
oui,
ça, c'est faux la plupart du temps, en général, pour l'Antiquité. Ça existe, mais c'est relativement rare.
D'accord.
Voilà, si vous voulez. Alors, le grand 5e siècle, enfin oui, le 5e siècle que moi j'appelle romano-visigothique, parce que ces Visigoths, ils sont installés, c'est des coucous, ils s'installent dans la ville romaine, bien entendu. Ils occupent le quartier qui commence autour de Saint-Pierre. Au nord, on est au nord du rempart, Saint-Pierre des Cuisines, tout ce secteur, c'est un secteur funéraire essentiellement. Et puis leur quartier, probablement le quartier royal, le quartier du roi Théodoric, s'étend le long de la Garonne, à peu près jusqu'à la Dorade. Donc le quartier visigothique, ça devait être ça. Et les Visigoths, par là, controlaient le Basacle.
La
sortie vers le Basacle. Ouais. Il contrôlait l'axe,
qui était un gué important,
l'axe Garonne. Oui. Il contrôlait tout ce qui était important politiquement et économiquement.
Oui. Mais il y avait des constructions importantes que j'ai visitées avec toi, rappelle-toi, à l'hôpital Larré.
Ah, ben oui, mais alors là on peut se lamenter, on ne va pas dire de mal.
Oui, d'ailleurs, vous déplorez à plusieurs moments, enfin pas que vous d'ailleurs, les ravages de l'urbanisme contemporain.
Les édiles municipaux, mais on va dire. Mais c'est une période. 71 Bazerques, 88 Bouddhistes.
Voilà, ouais.
Je pardonne presque plus à Bazerques, parce qu'en 71, on fait le parking de la place du Capitole. Ouais. Tout le monde savait, enfin, les gens un peu au courant savaient qu'il y avait la porte romaine. Tout a été détruit. Tout a été détruit. On a deux ou trois collègues héroïques qui ont fouillé devant le bulldozer, enfin, comme ils ont pu.
Oui,
Il y a des photos. Michel Vidal, il faut citer son nom, parce que ça a été vraiment héroïque.
Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est la question que...
gentil, ce que Gaston de Fer a fait à Marseille.
Il fallait essayer de sauver les choses. Enfin bon, mais c'est l'époque où il fallait adapter Paris à l'automobile, hein, comme disait le président Pompidou à l'époque. Bon, il faut remonter à cette époque-là. En 88, moi, je suis un peu plus sévère, parce que depuis 80... Le patrimoine des centres-villes, on avait commencé à le sauver. Or là, à l'hôpital Larrey...
Oui, on a fait des pétitions, mais pour...
On est arrivé trop tard, on n'a pas été assez méchants. Bon, voilà.
Oui, parce que là, c'est un ensemble immobilier, non ?
On en parlait à midi.
Philippe Emery,
oui, pour un ensemble immobilier, pour le coup. Là, c'était pas du tout...
Et je pense que l'échec programmé du projet d'inscription de Toulouse à l'UNESCO... Puisqu'aujourd'hui, on pense que c'est abandonné. En partie dû à ça, parce que l'UNESCO, on s'est bien informé là-dessus, dit qu'est-ce que vous avez fait de votre patrimoine. Au moins le patrimoine antique. En revanche, moi, je passe régulièrement derrière Saint-Cernin. Enfin, si vous y êtes passé, c'est une pure merveille.
Voilà.
À 6 heures du soir, je vais de Saint-Cernin.
Grâce à toi et à Claude Domergue, nous avons le petit amphithéâtre de l'Ardenne.
On a gardé l'amphithéâtre de
Purpan. Avec ses vomitoires.
Derrière Purpan.
Avec ses vomitoires.
Absolument.
Oui.
Voilà.
Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, alors je ne sais pas comment ça s'est vérifié, qu'il y avait vraiment un mélange, je ne dirais pas de races, mais j'ai noté gaulois, évidemment, italien, romain, ibère, pyrénéen, grec.
Grec.
Il y avait vraiment une population.
Un melting pot.
Ah oui, tout à fait.
Il y a un melting pot très tôt. Très tôt, dès l'époque gauloise, dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, on a des documents. On a retrouvé des tessons de poterie qui sont... Alors c'est amusant parce que ce sont des tessons de poterie de céramique qu'on appelle campanienne, céramique à vernis noir.
Étrusque.
Et donc d'origine italienne, qui sont gravés par des gens qui étaient probablement des Gaulois. Enfin, on n'en sait rien, des gens qui étaient là. C'était trouvé à Saint-Roch. Ils écrivaient, et les noms qui sont là sont des noms grecs. Donc on se rend compte, sur un document minime de quelques centimètres carrés, on a un document italo-gréco-gaulois. Ouais. Enfin voilà, c'était tout à fait extraordinaire.
Quant à la période des Visigoths, en fait, ça avait été la plus grande période de la ville à ce moment-là, non ?
C'est la plus belle période, je ne dirais pas au sens où... Je pense que, si vous voulez, les Visigoths, ils ont prolongé la grandeur romaine. Mais c'est la plus belle période de la ville, en ce sens que c'est la période où il y a un moment, à la fin du siècle, autour de 470, 480 et jusque vers 500, où le roi Wisigoth de Toulouse était roi d'un roi, était à la tête d'un royaume qui allait d'Orléans à Gibraltar.
Ah. Oui.
Donc dans l'histoire de Toulouse, énorme. Dans ouais. toute l'histoire de Toulouse, c'est le plus grand moment d'une certaine
bien
façon.
Sûr. Oui. Bien sûr.
Et il n'a pas duré longtemps.
Oui, oui, oui.
Puisque en 507, Clovis est arrivé. Les Francs.
Et là, ils ont tout détruit.
Et nos ancêtres, les Francs, n'exagérons rien, ils n'ont pas détruit tout Toulouse. Mais enfin, en tout cas, ils ont liquidé le roi Wisigoth à la bataille de Vouillet, à côté de Poitiers. Et puis ensuite, ils ont occupé Toulouse, etc.
Ils ont brûlé, paraît-il, pas mal.
Oui, ils n'ont pas vraiment tout détruit. Mais enfin, le 6e siècle n'est pas brillant.
Oui,
c'est clair.
Oui, oui.
Malgré Saint-Rémy qui...
Moi, j'en ai discuté, on a beaucoup discuté, parce que là, on a pu articuler avec le collègue, qui je crois n'a pas pu venir, mais Gérard Pradalier, qui a écrit les débuts de l'histoire médiévale, et on a été d'accord. Je lui ai dit, Gérard, tu vas pas être trop mécontent si je te dis que ce sont les premiers, les Francs, les premiers qui ont été plutôt pas brillants pour Toulouse. Il m'a dit, non, incontestablement. Le 5e siècle, les Visigoths, ça va encore pas mal. Le 6e siècle, c'est dur.
C'est moyen.
Enfin, Toulouse a su se remonter depuis.
Oui,
mes collègues sont là pour le prouver.
On relève toujours les murs.
En tout cas, écoutez, moi, j'ai eu grand plaisir à vous écouter tous les trois. Mais malheureusement, l'émission s'achève. Mais vous reviendrez, j'espère.
Avec plaisir.
Oui,
avec grand plaisir. Ah. Avec grand plaisir.
Voilà. Un grand, grand merci. Alors, merci. Je rappelle à nos auditeurs donc que Rémi Pêche, Jean-Marie Paillet, Jean-Marc Olivier ont participé et même dirigé cet ouvrage, une somme
d'articles. Un pavé.
Si vous dites ça, vous allez décourager nos auditeurs.
Non,
et je leur dis non,
prenez-le,
il est lourd. Alors, je vais faire un reproche. Moi qui lis beaucoup la nuit, on ne peut pas lire dans son lit. Parce qu'il est vraiment celui-là, non. Mais on peut le prendre, on peut lire un chapitre, on peut le laisser et le reprendre. Voilà. Et c'est passionnant. Et on apprend, moi qui croyais savoir beaucoup de choses de Toulouse, mais non, je ne sais rien.
Vous voyez, on a veillé à la cohésion aussi. Ce que vient de dire à la fin Jean-Marie est important.
Hein, absolument.
Articuler les périodes.
Ah, oui. En tout cas, alors un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Histoire de Toulouse et de la Métropole, sous la direction donc de Jean-Marc Olivier et de Rémi Pêche, et c'est édité chez Privin. Merci, voilà. Messieurs.
Merci à vous.
Merci beaucoup.